Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Deux thèmes pour ces débats. Clôture mercredi dernier à Goma du mini-sommet des chefs d'État des Grands Lacs. Une rencontre qui s'est tenue par visioconférence. Les chefs d'État de la RDC, de l'Angola, du Rwanda et de l'Ouganda ont pris part à cette rencontre. Dans les communiqués finaux qui a sanctionné les travaux, les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts afin d'éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région, freiner l'exploitation illicite des ressources naturelles et lutter contre la Covid-19. Congo central, Jean-Claude Wemba et Nini Mbumba ont été élus mardi dernier, respectivement président et vice-président de l'Assemblée provinciale. Ils succèdent ainsi à Pierre-Anatole Matusila et Edmond Luzolo Luanganga, destitués le 10 octobre dernier par 25 députés sur les 37 qui composent l'organe délibérant de cette province. Ce sont là les principaux thèmes de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit d'Alain Botoko. Il est journaliste et photographe indépendant évoluant à Kinshasa. Alain Botoko, bonsoir.
Bonsoir Guy, bonsoir à Benjamin, bonsoir à JR et aux millions d'auditeurs qui nous suivent ce soir.
JR Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. Bonsoir JR Mokolo.
Oui, bonsoir Guy Mathé, bonsoir Benjamin, bonsoir tous ceux qui vont débattre avec nous et surtout nous saluons de nombreux auditeurs de la radio Okapi, à Radio de la Paix.
Benjamin Sivanzire, rédacteur en chef de la radio-télévision Unité, émettant des Béni au Nord Kivu. Bonsoir Benjamin Sivanzire.
Bonsoir cher confrère Guy, tous les Okapi qui nous écoutent à travers le monde.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Alain Botoko, journaliste et photographe indépendant évoluant à Kinshasa, à part les deux thèmes retenus ce soir, l'actualité de la semaine était aussi dominée par l'affaire commune rurale de Minembwe et le récent massacre des civils à Beni. Qu'est-ce que vous commentez ce soir, Alain Botoko?
Oui, mais ce soir, moi, je parle plutôt de ce qui s'est passé à Kinshasa, de la réunion que le gouverneur de la ville a eue avec ceux qui gèrent ou qui contribuent à rassembler l'argent pour que la ville avance. Mais ma petite contribution, c'est de dire au gouverneur qu'il ne doit pas se limiter à ceux qui gèrent les miettes. Moi, j'appelle ça miettes parce qu'il y a encore des milliards et des millions d'argent qui dorment dans la ville de Kinshasa. Je vous cite par un petit exemple. Je participe à une réunion il y a quelques années passées à la ville de Lagos. Et le gouverneur de la ville, effectivement, le Nigeria fonctionne comme le Congo. Le gouverneur de la ville a réuni le privé, les ONG et tous ceux qui contribuent pour que l'économie de Lagos avance. Et ils ont eu un budget, ils ont programmé un budget de 20 ans. De 25 milliards d'argent. Et là, ils sont en train de construire des routes de 2020, nous étions à 2013 à cette époque, ils construisaient des grandes routes, ils étaient en train d'élargir l'aéroport, et ils ont mis des taxis bateaux dans la lagune de l'océan, ils ont cette ligne de train pour déplacer ceux qui habitent la ville de Lagos, qui est une grande ville, je crois la première après Kinshasa. Et donc, moi je crois que le gouverneur devait s'inspirer de cet exemple et d'éviter les bêtises que nous avons vues dans le passé. Vous imaginez par exemple à l'époque du premier ministre Matata, il versait 1 400 000 $ à ceux qui balayaient 5 communes de Kinshasa. Alors qu'à cette même époque, l'Union Européenne, par le canal du projet Parou, versait chaque mois 1 000 000 $ à plus de 300 personnes qui étaient payées tout le jour et à un très bon salaire. Donc moi je crois qu'il y a de quoi travailler et le gouverneur a vraiment l'obligation de rendre cette ville belle s'il le peut. Mais s'il ne peut pas, c'est-à-dire que s'il le fait seul, s'il ne peut pas associer les autres, moi je pense pas qu'il va réussir parce que je ne vois aucun programme clair, aucun budget clair, la société civile n'est pas associée. On va continuer dans la même façon de voir les choses et rien ne va avancer. Et quelqu'un disait, je crois c'est Einstein, disait que si on espère un résultat différent à un travail qu'on fait de la même manière, on n'est pas loin de ceux qui ont perdu le Nord. Et je ne pense pas que les dirigeants de Kinshasa ont perdu le Nord.
Même l'opération Kindopé, on n'en parle plus, hein?
Non, il n'y a aucun programme, aucun budget. Et je ne pense pas que ça se gère ainsi dans ce siècle présent où tout Merci. Est budgétisé, tout est numérisé.
Merci. JR Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. Vous commentez quelle actualité ce soir?
Oui, moi je veux m'incliner en tout cas devant la mémoire de nos compatriotes qui viennent de perdre la vie à Dongo, dans les provinces du Sud ou Bangui, dans les grands équateurs, à la suite d'un naufrage d'une baleinière. et on ne cessera jamais en tout cas d'éplorer l'incurie de ceux qui nous gèrent. Combien de fois a-t-on en tout cas dit qu'il était question qu'on interdise ce genre d'embarcation de prendre des passagers? Combien de fois a-t-on décidé, même le chef de l'État lui-même a dit que désormais les passagers devraient en tout cas être munis des gilets de sauvetage? Donc on ne fait que répéter les recommandations, on ne fait que répéter les décisions déjà prises, mais malheureusement, chaque jour, les gens se comportent comme si, à l'époque, il n'y avait pas d'accident. Donc on ne tire jamais les leçons du passé. Voilà, comme ça, on nous dit, plus de 80 personnes auraient perdu la vie parce qu'ils ont voyagé dans des mauvaises conditions. Tout cela, tout simplement parce que nous, les politiques congolais, nous, les gestionnaires politiques congolais, nous avons tué l'ONATRA qui assurait les transports à l'époque du règne du maréchal Mobutu à travers toute la République. Maintenant, les gens ne savent plus, en tout cas, s'émouvoir, se déplacer d'une province à l'autre. On recourt maintenant à des embarcations. Et pourtant, nous sommes en pleine période de modernité. On devrait avoir des ferry-boats et des bateaux modernes. Mais nous, là, on est retourné pratiquement autant de siècles en arrière. On a fait aujourd'hui de voyager comme des animaux, comme si on était encore à l'époque où le plan n'était pas encore fini en Afrique et au Congo. Voilà, donc... Je crois qu'à une certaine époque, faut que on arrive quand même à sanctionner les responsables politiques. Parce que je me rappelle, Madame Elor Marie Kawanda avait été obligée de démissionner parce qu'il y avait un accident d'avion. Mais avec autant d'accidents de navigation, on ne voit pas les responsables du ministère des Transports être interpellés. On ne voit en tout cas rien changer. On continue en tout cas de se comporter comme si le Congo était en dehors et la communauté internationale qui a édité les normes pour la navigation.
Justement, cette incurie que vous dénoncez s'explique par le manque des sanctions, justement.
Oui, non seulement manque de sanctions, mais que, par exemple, on n'applique pas aussi les recommandations qu'on prenne. Toute la réglementation n'est pas respectée. S'il y avait quand même des gens qui veillaient à ce que on ne peut pas surcharger, par exemple. Si vous voyagez, vous devez respecter le tonnage. Si vous voyagez, vous devez par exemple être muni des gilets de sauvetage. Si la réglementation était respectée, je crois qu'on n'allait pas chaque fois déplorer des accidents d'avion, des accidents de navigation et même des accidents de la route.
Merci.
Voilà un peu ce qui arrive. Donc apparemment, ceux qui gèrent le pays à tous les niveaux, en tout cas ils sont ailleurs, ils pensent comment s'enrichir, comment faire de l'argent au sommet de l'État, dans les institutions, plutôt que à garantir la sécurité des personnes et des biens, et surtout dans le domaine de l'habitation.
Merci Benjamin Sibanziré, rédacteur en chef de la radio-télévision Unité, mettant des Beni au Nord Kivu. Qu'est-ce qui domine l'actualité ces vendredis à Beni au Nord Kivu?
Merci bien cher Guy Maté. L'actualité ici chez nous à Beni, c'est toujours en rapport avec la sécurité. Hier soir, nous avons appris que le rebelle ADF Pangoro, une fois kidnappé, quelques agriculteurs à Lungupa, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville de Beni Lac et Beni Kasindi. À part cela, je vais commenter l'actualité rapport avec ces sons qui est attribué au maire de Goma, qui aurait demandé aux bandits qui opèrent dans sa juridiction d'attendre le départ du chef de l'État pour reprendre avec leurs activités. Moi, je pense que déjà, des propos vraiment ne sont pas bons pour une autorité. Vous rappelez, cher Guy Maté, c'est le deuxième cas qu'un maire de ville puisse exprimer d'une manière qui acharne la population face à une insécurité. Vous rappelez peut-être ici à Beni, il y a quelques mois, c'était le tour du maire de Beni d'accuser les élus d'être à la base de la sécurité urbaine, au lieu que lui-même où ces autorités-là puissent prendre des mesures utiles afin d'éradiquer cette insécurité qui entraîne d'armer la paisible population. Voilà à fait la qualité que j'ai partagée avec vous ce soir, cher Guy Maté.
Merci, ça nous permet d'aborder notre premier thème de ce soir. Clôture mercredi dernier à Goma du mini-sommet des chefs d'État des Grands Lacs. Une rencontre qui s'est tenue par visioconférence. Les chefs d'État de la RDC, de l'Angola, du Rwanda et de l'Ouganda ont pris part à cette rencontre. Ces chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts afin d'éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région. La lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles nouvelle et contre la COVID-19 figurent également au menu du mini-sommet qu'ils ont tenu mercredi dernier par visioconférence. Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays participants sont chargés de déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre des résolutions de ces sommets. On écoute un extrait du communiqué final lu par la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Marine Tumba Nzenza, dans une sélection de Billy Ivan Lutumba.
Les chefs d'État de quatre pays ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Les chefs d'État ont convenu de mettre sur pied un plan transfrontalier pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle de riposte à la COVID-19 et des autres pathologies à potentiel épidémique entre les quatre pays, tout en respectant les législations nationales, régionales et internationales irrelatives.
Alain Botoko, comment vous analysez cette initiative qui consiste à réunir les chefs d'État pour examiner les problèmes communs à cette sous-région des Grands Lacs?
Oui, il y a un adage français, je crois que ce sont les Africains qui disent ça, ils disent que pour savoir où on va, il faut toujours s'interroger clairement de là où l'on vient. Et je pense que le président a eu une très bonne initiative, une très bonne idée pour pouvoir réunir effectivement tous les chefs d'État qui peuvent contribuer de près ou de loin à une solution durable pour l'Est de notre pays. Vous savez que cette région, c'est une région très riche qui est meurtrie par les conflits armés depuis des années. Aujourd'hui, c'est plus de 25 années. Et Boniface Moussavouli l'a dit dans un de ses livres où il parle de massacre de Beni et toute cette complexité dans cette région. Il dit qu'il y a plus de 126 groupes armés qui équipent cette région et ces groupes armés sont le groupe du pays, le Maï Maï, mais aussi le groupe de pays extérieurs. Et ils travaillent souvent en commun pour exploiter des richesses. Et ces richesses sont vendues où souvent dans le pays qui sont dans ce coin-là. Et alors, le président a compris ça, qu'il fallait réunir ses présidents, ses homologues, leur parler clairement de la situation. Ils connaissent tous cette situation pourrie. Et je pense que ce qui a manqué, c'est associer effectivement la communauté internationale d'une manière un peu large, la MONUSCO, toutes les autres institutions des Nations Unies, pour qu'elles aussi soient témoins, et la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et la Belgique devaient être dans cette réunion. Et je pense que c'est une première étape qu'il faut encourager, et c'est de cette étape-là, justement, va découler, et je crois que le ministre des Affaires étrangères va continuer à travailler, et la nôtre travaillera la première,
merci,
pour pouvoir déterminer clairement ce qu'il faut faire dans l'année qui va suivre, dans les deux ans qui vont suivre,
merci,
les trois ans qui vont
suivre. Voilà. Merci. Merci, Jérôme Okolo. Ces chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts afin d'éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. Vous avez suivi Alain Botoko qui parle des 126 groupes armés nationaux et étrangers. Et à ce sujet, certains experts estiment qu'il serait illusoire de penser que les États qui ont toujours entretenu ces groupes armés et puissent aujourd'hui affirmer et qui sont disposés à combattre ces mêmes groupes armés.
Oui, tout en se félicitant du fait que les chefs d'État de la région puissent se retrouver pour échanger sur les problèmes qui assaillent leurs pays respectifs, mais je suis d'avis avec ces experts-là que vous venez de citer, parce que moi je me dis que ce n'est pas avec ceux qui ont créé l'insécurité, ceux qui profitent de cette insécurité, qu'on va résoudre en tout cas les questions sécuritaires à l'est du pays. Nos pays voisins, surtout ceux qui avaient accompagné la fidèle ici au Congo, Kinshasa, n'ont pas en tout cas intérêt à ce que la RDC fait trouver une certaine normalité dans son fonctionnement, parce que bien l'adage, l'insécurité des uns font la sécurité des autres. Donc, c'est à travers notre insécurité qu'eux en profitent pour pouvoir en tout cas piller nos richesses naturelles, peut-être aussi peut-être semer des désordres, des chaos, pour que les Congos ne puissent pas en tout cas se relever. Vous rappellerez, Guy Mathieu, que pendant la période de la guerre froide, sous le maréchal Mobutu, notre pays était vraiment le gendarme de la sous-région. Le maréchal Mobutu, à travers son régime, faisait et défaisait les chefs d'État de la sous-région. Et nous étions pratiquement les pivots, la locomotive, le centre de gravité de la région. Vous savez, en vertu de la théorie du centre de la périphérie que des géopoliticiens, donc le centre est obligé d'être fort pour contrôler la périphérie. Mais maintenant que le centre n'arrive pas à se maîtriser, n'arrive pas à assurer sa sécurité, maintenant ce sont les pays frontaliers qui nous rentrent pratiquement dedans. La raison pour laquelle vous apprendrez que pratiquement tous les pays voisins ont un pied en mer des Congo. Donc ça démontre que nous n'avons pas avancé, nous avons reculé par rapport à une certaine époque où nous étions pratiquement les gendarmes de la solution. Moi, je ne pense pas que la solution à l'insécurité qui se vit à l'est du pays où on enregistre presque au quotidien de morts, des tueries depuis pratiquement l'entrée de l'Afdel sur le Congo va avoir comme solution des rencontres avec des chefs d'État des pays voisins. La solution viendrait quand nous, les Congolais, nous allons prendre conscience que nous n'avons que ce pays, que nous avons le devoir de pouvoir protéger notre pays et de nous munir en tout cas d'un appareil sécuritaire, un appareil de défense digne de ce nom. Moi, je ne vois pas les États-Unis, je ne vois pas le Brésil, je ne vois pas l'Inde, je ne vois pas tous ces pays-là aller recourir à des pays voisins pour assurer leur sécurité. Vous rappelez par exemple l'Angola a un problème avec la rébellion de l'UMITA. Cette rébellion-là a sévi pendant des années, une guerre civile qui a endeuillé les pays. Eux-mêmes se sont battus. Et aujourd'hui, on ne parle plus de l'UMITA. Et aujourd'hui, l'Angola est sécurisée. Aujourd'hui, l'Angola est en train de se développer. Donc, merci. Nous devons prendre en charge chez nous-mêmes.
Merci.
Nous devons nous prendre en charge. C'est nous-mêmes qui croyons bien faire, de faire appel à des pays voisins pour nous débarrasser du maréchal en bout de prendre le pouvoir. Or, l'AFDEL n'était qu'un cheval de Troie.
Merci.
Et aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, de payer nos choix du passé.
Merci, Benjamin Sivan Diré. Ces chefs d'État ont promis de conjuguer leurs efforts pour lutter contre ces groupes armés et lutter aussi contre l'exploitation illicite des ressources naturelles. Et à votre avis, la conjugaison des efforts passerait par quoi? Par la conception des opérations militaires conjointes pour combattre ces groupes armés sur le terrain, ou cela passerait par le partage des renseignements?
Merci bien, cher confrère Guy Mathé. J'ai appris également cette nouvelle qui semble m'étonner un peu. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il y a un sommet entre les chefs d'État des pays du Grand Lac. C'est un énième sommet qui vient encore une fois de se passer. Moi, je me demande plutôt pourquoi, après chaque sommet, il n'y a pas toujours des solutions dans cette région. Et s'il s'agit de conjuguer les efforts, c'est pas aujourd'hui que les chefs d'État de cette région disent qu'il faut conjuguer les efforts, qu'il faut collaborer. Et moi, je me trouve à face d'une situation où on est en train de prendre les accords la journée et le soir, on revient pour les violer. Et c'est tôt, les mêmes chefs d'État qui s'entraquisent, ou les mêmes pays qui s'entraquisent d'alimenter les groupes armés dans l'Ouganda, la RDC et vice-versa. Et finalement, je me demande concrètement, qu'est-ce qui est en train de se faire si ce n'est pas chaque pays vouloir protéger ses intérêts. Moi, je pense que, avant même de bien vouloir conjuguer les efforts, il faudra que chaque pays puisse balayer sa case. On a toujours dit que chacun balaye sa porte et la rue sera propre. Que chacun balaye sa case. Nous avons tant de problèmes à la République démocratique du Congo qui concerne la sécurité. En observant les pays comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola, il y a une certaine stabilité sécuritaire. Mais de notre côté, nous avons des sérieux problèmes. Moi, je pense que le président de la République, son excellence, André Félix Tshisekedi, devrait d'abord adopter des stratégie pour établir une sécurité à l'interne. Une sécurité qui sera capable de donner une stratégie sécuritaire interne, qui sera capable de donner des bons fruits, de donner une bonne contribution aux efforts d'autres pays de la sous-région, au lieu de commencer à tourner seulement les yeux vers l'extérieur, alors que le pays a aussi la capacité de prendre à charge sa propre sécurité. Vous savez bien, c'est un principe. La sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'État lui-même, avant même de voir l'Angleterre ou d'autres pays ou d'autres organisations de la communauté internationale. C'est le Congolais d'abord lui-même qui doit établir, voir comment il va gérer tous les incidents qui peuvent nuire à sa propre sécurité.
Merci. Alain Botoko, une certaine opinion pense qu'avant d'envisager, n'est-ce pas, un tel sommet, il y a des préalables qu'il faut nécessairement accomplir, notamment améliorer la gouvernance interne. Vous venez de suivre Guillermo Polo, lui qui parle de réformer, n'est-ce pas, nos forces de sécurité et de défense. Et Benjamin Sivanziré, lui qui pense qu'il faut que chaque pays commence par balayer sa case, parce qu'il estime que la sécurité, c'est l'affaire d'abord de l'État lui-même. Est-ce que vous êtes de cet avis qu'avant qu'on puisse envisager une telle rencontre au niveau des chefs d'État, il faut d'abord commencer par assainir chez soi?
Moi, je pense que les solutions sont holistiques hein, dans cette situation pourrie de l'Est de notre pays. Dire qu'il faut commencer par celle-là et laisser l'autre, non, c'est une très mauvaise approche. Moi, je crois qu'il faut prendre toutes les approches et avancer avec d'une manière continue et au même moment. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, au fait, comme les amis le disent, hein, notre armée était en problème, nos services de sécurité étaient en problème, alors que le président est en train de travailler sur l'armée, sur la police, sur la sécurité interne, avec ses ministres et tous ceux qui ont la charge de la gestion de l'État. Et au même moment, il est en train de connecter aussi à l'extérieur pour dire, écoute, je m'organise chez moi, mais vous aussi, aidez-moi à ce que ça ne dégénère pas, parce que si ça dégénère comme ça c'est en train de dégénérer, ça va, vous aurez des répercussions dans votre pays. Et nous pouvons au lieu, à ce moment-là, de construire des murs, comme le conseille beaucoup d'autres personnes, construire des ponts d'échange pour dire, lors là que vous voulez traiter à l'Ouganda, ou vous pouvez le faire en achetant clairement dans le foyer minier qui sont connus par l'État, contrôlés par l'État, le coltan que vous voulez aller retraiter là-bas pour produire des appareils de communication au Rwanda, vous pouvez le faire avec l'État, clairement, avec les structures de l'État. Donc moi je pense que c'est vrai qu'il y a une jeunesse qui entrait effectivement, qui chôme, qui n'a pas assez de boulot, il faut créer des emplois. Et moi je l'ai dit, j'ai écrit un article qui était intitulé « Les solutions pour les pollutions sociales qui s'imposent dans beaucoup de coins au pays et surtout dans la partie orientale ». Et dans ces solutions-là, je dis, ben, si on créait par exemple des brigades agricoles où on propose, on met les jeunes à l'intérieur, dans ces brigades-là et ils vont oublier l'arme qui tue et ils vont maintenant se servir de leur salaire pour continuer à vivre, ils vont plus continuer à faire le bêtise, tuer leur maman, leur sœur, mais aussi à mettre le coopérative minière. Et ça se fait en Afrique du Sud, des small mining. Moi, je vous cite par exemple, rien que à Haute-Uele, il y a 16 000 trous d'or qui sont incontrôlés par l'État. Et rien, l'État ne contrôle que 772 foyers miniers officiellement. Vous voyez, c'est des millions d'argent. Et ceux qui font des affaires, ce sont des gens verrés. Vous avez parlé de Minembwe, là, toutes les montagnes de Minembwe, c'est de l'or à l'intérieur. C'est ça la vraie guerre à l'intérieur. Et partout au pays, c'est comme ça. Moi, je crois qu'en travaillant à l'interne, il faut aussi travailler avec le pays voisin pour trouver des solutions logistiques.
Merci, Guillermo Polo. Guillermo Polo, selon Alain Botoko, toutes les démarches doivent être recommandées. La démarche interne, n'est-ce pas, qui consiste à améliorer la gouvernance interne, et tout en allant chez le voisin pour voir si ensemble on peut trouver des solutions adéquates à ces problèmes sécuritaires qui sont des problèmes communs, hein, parce que aujourd'hui c'est la RDC qui semble être victime, en fait qui est victime effectivement. Mais on ne sait pas si demain ou après-demain, ces pays ne seront pas à leur tour insécurisés par ces mêmes groupes armés. Et donc, selon Botoko, les deux démarches doivent être recommandées, une démarche à l'interne et une démarche au niveau régional.
Oui, on ne peut pas refuser à ce que l'on puisse faire fonctionner la diplomatie, mais la diplomatie ne peut être efficace que quand, sur le plan interne, vous êtes solide, quand votre système de défense et votre appareil de défense en tout cas est performant, c'est en ce moment-là que, sur le plan diplomatique, vous pouvez aussi être fort. Vous voyez les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, la Chine, prenez l'exemple de la Corée du Nord. Les États-Unis, superpuissance, ne peuvent pas, par exemple, attaquer la Corée du Nord parce qu'ils savent très bien les capacités militaires de la Corée et vice-versa. Et nous avons vécu, par exemple, la guerre froide aussi à une certaine époque parce que les deux pays, les alliés, les adversaires, quoi, se craignaient mutuellement. Mais l'ami Benjamin a dit, par exemple, que chacun doit balayer dans sa parcelle. On se rend compte, par exemple, que le Rwanda, qui a souffert du génocide, qui a passé aussi des très, très mauvais moments, a réussi à balayer dans sa parcelle en prenant pratiquement comme des poutoirs la RD Congo. Et l'Ouganda aussi a comme des poutoirs la RD Congo. D'où le groupe rebelle, par exemple, les Rwandais, même Burundais, même Ougandais, sévissent au Congo, mais pas en Ouganda, pas au Rwanda, pas au Burundi. Donc c'est ça les grands problèmes. Nous avons, avec cette multiplicité des groupes armés, nous avons un problème aussi de manque de patriotisme. Si nous avions véritablement des patriotes, comme par exemple les Vietnamiens, à l'époque ils se battaient contre la superpuissance américaine. Mais nous, malheureusement, le patriotisme, l'amour de la patrie n'existe pas. Il n'y a pas de Congolais qui sont prêts à mourir pour leur pays, même les militaires qui se battent au front, ils sont pas suffisamment motivés aussi pour se battre.
Merci, Jérôme.
Vous savez, Guy Maté, par exemple, je vais seulement chuter par là. Vous savez, pendant qu'on tue au quotidien à l'est du pays, ici à Kinshasa, les gens sont où? Dans les terrasses, en train de s'amuser. Si nous étions vraiment un même corps, un même peuple, je crois que à Kinshasa, les gens allaient aussi se soulever pour qu'on puisse prendre les armes, peut-être essayer de trouver une solution définitive. Mais il y a ici, les gens s'amusent, les gens se distraient.
Merci.
Pendant que les autres meurent.
Merci Benjamin Sylvain Ziré. C'est vrai que vous pensez qu'il faut commencer par accomplir certains préalables, et notamment réformer notre armée, améliorer la gouvernance interne. Mais au-delà de tout ça, à votre avis, quelles sont les chances de mise en application des résolutions issues de ces mini-sommets de Goma?
Merci bien encore une fois pour cette opportunité. Moi, je pense que pour que les résolutions des mini-sommets soient appliquées, il faudra qu'il y ait plus d'hypocrisie entre les chefs d'État qui se sont réunis dans ce cadre-là. Étant donné que on le sait déjà, on sait qui fait quoi dans ce Irak, on sait qui pille les minerais, on sait les minerais vont où, pour faire quoi, alimenter des groupes armés ou construire des belles maisons sur l'état de la paisible population. Et moi, je vais quand même peut-être sur ma position de demander au président de la République de voir comment asseoir d'abord une justice aussi du pays. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice avec tous ces mondes-là qui ont commis des crimes pendant toute la période de stabilité sécuritaire que connaît le pays. Pendant que tout ces gens-là sont libérés en électro libre, moi j'ai doute vraiment qu'il y ait une sécurité qui puisse s'installer à défis de sommets qui peuvent se tenir même sur le plan international. Et à part établir une vraie justice, il faudra aussi éduquer la population. Les jeunes, il faut les éduquer. Ils sont traumatisés par la guerre, ils ont peut-être des mauvaises formations. Et c'est là même qu'ils commencent à se mêler dans des groupes armés pour chercher à se défendre. Et finalement, ces jeunes-là deviennent comme cet affaire-là qui met du feu sur sa case tout à vouloir brûler les serpents qui vont entrer dans sa maison.
Et donc, il faut continuer à sensibiliser les jeunes.
Il faut sensibiliser,
merci.
Sensibiliser et réformer aussi le secteur de la justice.
Merci, on a compris. Et Alain Motoko, en une phrase, quelles sont les chances que vous donnez à ces résolutions issues de ces mini-sommets pour qu'elles soient mises en application? En une phrase.
Moi, je pense Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères va continuer à travailler sur le sujet. Il est si complexe, hein, ce n'est pas vraiment quelque chose de si facile. Et je crois fermement que si à l'interne on continue à travailler et le chef de l'État a la volonté de pouvoir impulser ce travail interne, il a déjà commencé. Je crois qu'il y aurait des solutions dans la suite. Moi, je suis effectivement pessimiste et je crois que les choses vont aller dans la normale dans les jours qui viennent.
J.R. Mokolo, vous pensez que ces résolutions seront effectivement mises en application?
Oui, je me rappelle que c'est pas la première fois qu'on met ce genre de recommandations ou de résolutions. Je ne vois pas comment est-ce que le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi, par exemple, ou l'Angola, vont donner un mot d'ordre à une centaine de groupes armés nationaux étrangers pour qu'ils déposent des armes. Donc la meilleure façon de faire, je le répète, il faut qu'on améliore la performance de nos forces de sécurité et défense pour qu'ils puissent en finir un à un à ce groupe armé qui fait mort et désolation depuis des années.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, Congo central, Jean-Claude Vuemba et Nimi Mbumba ont été élus mardi dernier, respectivement président et vice-président de l'Assemblée provinciale. Ils succèdent ainsi à Pierre-Anatole Matusila et Edmond Luzolo Luanganga, destitués le 10 octobre dernier par 25 députés sur les 37 qui composent l'organe délibérant du Congo central. Les votes ont eu lieu mardi dernier au siège de l'Assemblée provinciale et Jean-Claude Vuemba et Nimi Mbumba ont recueilli la totalité des suffrages exprimés, soit 25 voix sur les 25 députés provinciaux qui ont voté. Un reportage de Nana Pleurich et Mambou.
Le 25 députés provinciaux présents à la plénière de ce mardi ont élu les remplaçants de Pierre Anatole Matusila et d'Edmond Luzolo Luanganga dans un climat apaisé sous la direction de la Commission électorale nationale indépendante. Prenant la parole juste après sa proclamation comme président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vuemba a annoncé la fin de la crise institutionnelle au Congo central. Il a notamment promis le retour de la paix et de la cohésion dans la province.
Il est vrai qu'il y a toujours des clivages au milieu de nous. Nous devons donc en appeler à une autre attitude, celle qui peut continuer à l'avancement de notre province. Il est de notre autorité publique que l'on ne peut pas parler développement sans la paix.
Entouré par des jeunes matadiens dès sa sortie de l'hémicycle, le nouveau président de l'Assemblée provinciale a également promis de peser de son poids pour que les jeunes de la province accèdent à davantage d'emplois.
Que la jeunesse du Congo central est brillante, mais abandonnée. Nous allons voir à travers toutes les entreprises qui s'y trouvent au Congo central, avant chaque embauche, 15% doivent être accordés à nos jeunes.
Jean-Claude Vuemba a aussitôt convoqué une réunion avec les autres membres du bureau pour statuer sur la date probable de la tenue d'une plénière ainsi que de la matière à traiter. Des Matadi, Nana Pleurich Mambou, Radio Okapi.
Merci à vous, Nana Pleurich Mambou, J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. Ces votes qui viennent de se dérouler au Congo central, est-ce une surprise ou c'était prévisible?
Oui, en tout cas, je pense que le dénouement de la situation dans les Congo central ne peut pas nous surprendre parce que depuis plusieurs mois, on s'est rendu compte vraiment que cette province-là était en crise et il y avait un clivage entre les députés provinciaux ou le gouverneur Matsuana et les autres députés défendeurs. J'ai comme l'impression là de vivre pratiquement un affrontement, une guerre froide quoi, entre les CACH et les FCC. Donc, les CACH peut-être du côté de Atou Matsuana et de Jean-Claude Vuemba, et les FCC soutiendraient sûrement Matsuana et tout ce qui se battait en tout cas pour que le gouverneur Atou Matsuana puisse quitter son poste de gouverneur parce qu'il y a un des deux mêmes été désavoué par l'Assemblée, il y a même des décisions judiciaires dans ce sens. Donc, je m'attends à ce que cette décision-là de pouvoir écarter Matsuana puisse faire l'objet peut-être d'un recours en justice. Donc, je me rends compte que la crise dans le Congo central n'est pas encore finie, contrairement à ce que Jean-Claude Vuemba a dit, que voilà, maintenant, l'ordre revient, la normalité revient, maintenant on va s'occuper des intérêts de la population. Je ne crois pas que la population ne va pas être prise en compte quand on a affaire à des politiciens qui se battent pour leur positionnement. Et je vais en profiter pour toute cette situation-là, pour déplorer un peu cette situation qui se passe pratiquement dans beaucoup de pays. C'est pas aujourd'hui, même dans l'ancienne législature, on a vécu la même chose des crises entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux. Et in fine, moi personnellement, il y a même beaucoup de compatriotes qui le pensent ainsi. Il va falloir qu'à un certain moment, on fasse des toilettages de la Constitution pour élaguer ces institutions budgétivores qui n'apportent absolument rien, en tout cas au développement du pays.
Merci.
Parce que nous croyons que avec la décentralisation, nous aurions des institutions provinciales qui allaient booster le développement. On se rend compte que ces institutions-là sont en train pratiquement de patauger dans des crises de positionnement, dans des crises personnelles. Et aucune province, en tout cas, ne connaît l'avancée, malheureusement,
merci,
dans ce pays de Congo.
Merci Alain Botoko, journaliste et photographe indépendant évoluant à Kinshasa. Autant Atou Matubwana avait qualifié d'irrégulier le vote qui avait abouti à sa destitution par l'Assemblée provinciale à l'époque, autant Anatole Matusila n'a pas reconnu la légalité du vote qui vient d'aboutir à sa déchéance. Et à votre avis, c'est quoi les scénarios possibles?
Mais il faut qu'ils lisent la loi tous, parce que les lois du pays disent que il y a des procédures pour gérer l'État. Donc, il y a les assemblées provinciales, il y a le gouvernorat, et ils sont obligés de travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est si, cher ami, c'est que comment un président de l'assemblée, de quelle autorité il tire sa force de fermer toute une assemblée pour 5, 6, 7, 10 mois? Mais ça vient d'où cette histoire, de cette manière de gérer? Et moi je pense que les politiciens congolais n'ont pas encore dans leur tête qu'il y a un changement qui s'est opéré déjà dans le pays, et le pays, les habitants de ce pays ne gèrent pas ce changement-là. La démocratie impose que ça soit des lois qui sont les plus fortes que les hommes. Mais il y a certains groupes qui ne veulent pas que ce soit la justice, ce soit la loi qui est au-dessus de tout le monde. Vous imaginez qu'il y ait quelqu'un ou un groupe d'hommes qui se disent « Nous, on est au-dessus de la loi, on ne peut pas obtempérer à quoi que ce soit, on peut fermer l'assemblée provinciale », alors que les gens ont été élus pour travailler pour le bonheur de cette province. Vous voyez les conséquences de cette mauvaise gestion dans le président de l'Assemblée, parce que moi je parle et je vois un peu plus ce que nous parlons aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques mois, vous l'avez dit là, la même Assemblée avait refusé de pouvoir enlever les immunités du gouverneur en place. Et je crois que c'était la raison qui a fait qu'il y ait des corruptions et autre chose. Et le suite, nous le connaissons, venir avec toute illégalité et faire ce qu'ils ont fait à tout.
Merci.
Mais aujourd'hui, l'élément que je vais ajouter, c'est que le Atou et Vemba doivent travailler en commun, doivent travailler avec en intelligence pour pouvoir faire sortir la province qui a tous les atouts pour être développée. Parce que moi, je vois le Bas-Congo, ils ont tout, ils ont des routes, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ça dépend que de l'attente du président.
Merci,
et du gouverneur pour faire avancer les choses.
Merci Benjamin Sibanziré, rédacteur en chef de la radio-télévision Unité et mettant des Beni au Nord Kivu. La situation du Congo central ressemble à certains égards à celle qui prévaut dans les Sankuru. Mais face à cette crise, le gouvernement central reste passif. Comment vous comprenez l'attitude de Kinshasa, Sibanziré?
Merci bien. Et moi, je me dis que c'est une crise de légitimité qui continue à s'accentuer de plus en plus. Vous vous rappelez, dans quelles circonstances, la plupart des honorables de ces gouverneurs ont été élus pendant les élections qui se sont passées. Et si aujourd'hui, il peut y avoir un silence de la part de Kinshasa, moi je pense que c'est plus que simplement ces élus-là, ces gouverneurs-là, sont en train de travailler au compte de leur parti politique, mais non pas au compte de la population. Ils n'ont donc pas de compte à rendre à la population, à part ce compte-là à rendre à leur chef qui, à quelque sorte, les avait nommés dans ces élections qui ont été aussi longtemps décriées. Moi, je pense qu'il faudra que les politiques congolais puissent apprendre à changer et abandonner cette habitude-là qui commence depuis les années 60 jusqu'à l'indépendance. Il y a des gens qui cherchent toujours à semer des divisions pour des intérêts tribaux, ethniques, politiques,
Et finalement, ce sont des choses qui ne marchent pas. Vous avez suivi ce qui s'était passé à Ituri, au Kasaï, et maintenant, c'est le Congo central. On parle d'une assemblée qui va maintenant trouver des solutions aux problèmes de la population et de la jeunesse. Moi, je lutte fort. Moi, je lutte fort. Moi-même, la procédure, quand suivi l'élection de ces nouveaux dirigeants-là, je doute vraiment que cette assemblée puisse être en mesure d'assumer ses responsabilités.
Merci. Gilles Mokolo, le silence du gouvernement central, comment vous l'analysez?
Oui, c'est un silence complaisant. Je ne sais pas, est-ce que vraiment le gouvernement central gagnerait quelque chose en laissant courir la situation dans ces différentes provinces, et surtout les Sankuru et même les Congo central, je ne sais pas. Bon, peut-être que les deux camps, elles se cachent, sont en train de se neutraliser à travers les conflits qui se vivent là-bas. Mais le chef de l'État, par exemple, a une arme qui lui donne la loi. C'est-à-dire qu'il y a une crise persistante entre les deux institutions, par exemple, on peut soit révoquer le gouverneur, comme on l'avait fait à l'époque, à l'époque avec Jean-Claude Payen, ou soit on peut dissoudre l'Assemblée provinciale.
Et à votre avis, ça sera sur votre conclusion, à votre avis, c'est quoi la solution adéquate pour mettre fin à toutes ces crises interinstitutionnelles que l'on observe dans beaucoup de provinces de la RDC?
Bon, moi je me dis, comme par exemple la décentralisation a pratiquement échoué, il va falloir peut-être qu'on puisse faire toiletter la Constitution pour nous élaguer ces institutions-là inutiles qui ne servent absolument à rien, comme par exemple les conseils économiques et sociaux, les institutions budgétivores, et surtout dans ces provinces, les différentes provinces, il y a beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de tiraillements.
Merci.
Et pourtant, ils sont appelés à travailler ensemble pour pousser le développement de ces pays-là. Donc, ça ne nous sert absolument à rien. On peut les élaguer, on peut trouver d'autres formules, par exemple, pour faire fonctionner les problèmes.
Merci. Alain Motoko, c'est quoi la solution à votre avis? Ça sera aussi votre conclusion.
Oui, la solution, ce n'est pas pousser le président à la faute. La Constitution ne permet pas que le président fasse n'importe quoi aux entités décentralisées. Donc, ce sont des entités autonomes, ils doivent fonctionner comme ils se doivent. Que chacun prenne conscience que nous avons un grand, grand pays avec 147 villes, 147 territoires, autant de communes,
Alain Motoko,
autant de quartiers.
Alain Motoko,
je crois que oui.
La même Constitution reconnaît chez l'État le pouvoir d'émettre les gouverneurs en cas de crise persistante entre les institutions provinciales.
Oui, c'est vrai, les reconnaît, mais c'était par les ajouts que l'ancien régime a fait. Mais dans la logique, dans la lecture de la Constitution, la Constitution, nous sommes comme dans un État fédéral. Donc, le président n'a pas assez de pouvoir sur le gouverneur. C'était une faute.
Merci.
Et moi, je vais finir en disant que je suis optimiste et je crois que ce pays doit décoller.
Merci.
Et c'est le moment, nous devons nous soutenir les uns les autres, faire le consensus national pour effectivement des solutions durables pour ce pays, que ce soit à l'Est et que ce soit partout.
Merci. Benjamin Sivanziré, un mot en guise de conclusion.
Moi, je pense qu'il est temps que ceux qui sont chargés de la justice puissent agir afin de mettre hors d'état de nuire tous ces distracteurs-là qui sont en train de distraire l'intérêt du pays. Alors qu'il y a des problèmes sérieux qui menacent la nation, il faudra que tous ces fauteurs-là puissent être traduits à justice et répondre de leurs actes, à ceux qui ne puissent pas déstabiliser les pays qui a besoin de plus d'énergie pour avancer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui est à la technique et Kéline Koute à la réalisation. Sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.